Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes au joie le mercredi 16 décembre, il est 8h30 et avec moi il est là, ça y est, à la technique, il s'est installé, il s'est mis à sa place, salut Corto.
Salut à tous.
Noam est là, notre stagiaire de 3ème, salut Noam.
Salut.
Et au programme de cette matinale, nous sommes avec Mathieu, bonjour.
Et bonjour.
Mathieu, c'est l'écrivain qu'on reçoit aujourd'hui, l'idiot américain ou encore histoires idiotes.
C'est toujours idiot.
Ce sont entre autres tes ouvrages, on en parle dans un instant, et tu nous as gratifié d'une chronique, c'est comme ça.
Et c'est rigolo parce que la dernière c'était le 16 décembre 2019.
Ah, comme quoi la boucle est bouclée.
C'est fou hein.
C'est fou, ouais. Ça parle de quoi aujourd'hui?
Toujours pareil, ça râle un petit peu. Quoi.
Ça râle, quoi.
Ouais, mais constructivement. Hein.
Toujours. Il y aura de la musique comme d'hab. Et Corto, si tu veux, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Allez, le gouvernement fait face à une nouvelle fronde des défenseurs des libertés publiques après la publication début décembre de 3 décrets étendant le champ de plusieurs fichiers de services de renseignement. Si ces fichiers ne sont pas nouveaux, les décrets leur donnent une toute autre dimension par l'ajout de nouvelles finalités, comme la menace contre la sûreté de l'État, et non plus seulement à l'ordre public, et en incluant de nouvelles informations, notamment celles relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale. Alors, plusieurs associations de défense des libertés et syndicats ont d'ores et déjà annoncé leur intention de déposer des recours devant le Conseil d'État. Il y a notamment la Quadrature du Nord, Force Ouvrière, le Syndicat de la Magistrature ou encore le Syndicat des Avocats de France quand même. Ils pointent notamment que si la CNIL a rendu sur chacun d'entre eux un avis validant les 3 décrets, plusieurs de ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Comme l'a révélé France Info, le ministère de l'Intérieur a en outre ajouté l'extension du fichage aux opinions politiques après l'examen de décrets par la Communion. Ah, cette ère du fichage, Mathieu, c'est beau, hein ?
Ah ben, c'est ce qui s'appelle le néolibéralisme. Non, mais c'est... c'était quand ? Je sais plus. Vous pouvez écouter l'interview de Barbara Stiegler. Elle est super, cette nana. Elle explique très très bien le fait comment le néolibéralisme, en fait, est une doctrine autoritaire. Et en fait, pas vraiment démocratique. Pas antidémocratique, franchement, mais pas très démocratique non plus, en vérité.
On continue de discuter avec toi, c'est toujours super. On écoute d'abord Blur, le morceau, c'est Clover Dover.
Thinking
C'est sûr que c'est pas leur morceau le plus énervé, mais c'est Blur, voilà.
Bah, ça dépend de ce qu'ils avaient pris avant. C'est comme ça à Manchester. Hein.
Allez, on est de retour en plateau avec Mathieu. Tu es écrivain. Comment ça t'est venu ?
J'essaye. Ça m'est venu par accident, comme tout le monde. Comme tous les... À chaque fois que quelqu'un se chope une manie... Hein. Ouais, c'est... Non mais c'est ça, il y en a ils vont se mettre à la peinture, enfin, je sais pas, c'est quand on est ado, il y en a ils se mettent à dessiner dans les marges des cahiers, il y en a ils se mettent à gratouiller une guitare, il y en a ils se mettent à écrire des trucs, il y en a qui font les trois, il y en a qui font aucun des trois, je sais pas, voilà, c'est comme ça.
Bon alors sachant que c'est considéré comme non essentiel, c'est quoi ton avis là-dessus? Comment tu l'as pris? Parce que je suppose que quand on est auteur on se le prend quand même dans la figure quoi.
Oh ben moi j'ai toujours su que c'était non essentiel, alors ça va, je le vis bien.
Bon évidemment on va parler plus en profondeur de tes livres, mais évidemment on peut penser que c'est compliqué de se faire éditer, d'où le fait que tu l'aies fait en auto-édition et publié sur internet.
C'est pas beau, mais parce que c'est tellement une jungle l'édition, puis ouais, honnêtement je connais personne. Alors au début, honte à moi. Et j'avais appris que Amazon faisait des livres papier, c'est-à-dire qu'on envoyait son PDF et que les gens pouvaient. J'ai fait ça. J'ai vendu des livres sur Amazon en papier.
Oh là là.
J'en ai vendu pas mal.
Oh là là.
J'ai dû en vendre une centaine, ce qui pour moi est énorme. Non, après j'ai dit non, c'est pas possible, tu peux pas. Et finalement, on m'a parlé d'une boîte française qui porte un nom anglais, donc qui s'appelle Bookelist. Ouais. Et c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher à produire, donc bon, forcément la marge est plus petite. Mais bon, 1 euro au lieu de 2 euros, ça ne change pas ma vie.
C'est pas faux.
Et au moins, je n'ai pas honte de dire, voilà, ils sont en vente là.
Il y a quand même une espèce d'éthique.
Disons, c'est le même principe en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que moi, en tant qu'auteur, ce qu'il y a de bien sur ce genre de boîte, c'est qu'on n'avance pas un centime. On envoie son PDF, bon alors on se tape la maquette, la couverture et tout. Mais après tout, c'est intéressant. Et une fois qu'on a envoyé ça... c'est stocké dans la machine et le bazar, et quand quelqu'un commande un livre, ça sort un livre et il y a pas de papier gâché comme ça, ça c'est bien parce que bon ben souvent on sait comment ça marche l'édition, hein, on sort 1000 et puis il y a 900 qui partent au pilon, c'est un peu dommage. Bon ben là il y a au moins ce côté, bon c'est vrai que voilà, c'est une fois de plus du e-commerce, hein, c'est une fois de plus voilà on sort pas, c'est ça qui est chiant, mais l'avantage c'est que voilà, il n'y a pas de gâchis de papier. Et moi, c'est mine de rien, mais c'est un truc qui a pesé. Et comme ça, par exemple, quand je vais en sortir 3, en mettre en dépôt vente à droite et à gauche, je vais dire, tiens, ah, madame la boulangère, je vous en mets 3. Tiens. Non, je ne veux pas. Si. Et voilà.
Alors, tes livres, il y a un titre qui m'a fait rigoler. Alors, évidemment, je vais pas faire le faux journaliste. Je n'ai pas lu tes livres.
Voilà. C'est honteux, je quitte ce plateau. Non, mais t'as bien fait. Franchement, c'est pas terrible.
En fait, t'es surtout là pour... à moi, mais aussi aux auditeurs et aux auditrices, pour leur donner envie de les lire, pourquoi pas. Il y en a un qui s'appelle, déjà, qui m'a fait rire dans le titre, ça s'appelle L'Idiot Américain.
Et oui, et ça parle pas de Donald Trump.
Ouais, ça c'est cool.
Ouais, c'est fort.
Non, parce que si on pouvait arrêter d'en parler de celui-là.
Mais non, parce que si j'avais fait un livre sur Donald Trump, je l'aurais appelé Le Crétin Américain. C'est ça, parce que c'est pas pareil.
Tu m'étonnes.
Et oui, non, parce que crétin, en fait, étymologiquement, c'est un chrétien dégénéré. Vrai de vrai, hein.
Oula.
Ça vient vraiment de crétin. Crétin, c'est vrai.
D'accord.
Voilà. Non, je trouve ça.
C'était la minute culturelle.
Ça lui correspond parfaitement.
Ouais. Donc, L'Idiot Américain, si ça ne parle pas de l'autre, ça parle de quoi ?
L'Idiot Américain, ça parle. Comment dire ? Au départ, c'est un jour, j'avais entendu un reportage sur Beaucaire. Voilà, j'ose l'avouer, nos voisins du Gard. Et je m'étais dit, quand même, quelle sale ambiance. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire un bouquin où il y a. Un vieux centre-village qui est complètement à l'abandon, où les gens vivent tous dans les lotissements autour. Et qu'est-ce qui reste dans le vieux centre-village ? Eh bien, des immigrés, notamment du Maghreb, et qui refont une espèce de village là, mais avec les lotissements, ça se passe pas bien. Parce que, ils disent, ouais. Du coup, c'est deux mondes. Et je me suis dit, je vais faire un truc où ça va partir vraiment en cacahuète, où ça se contente pas de voter Marion ou Marine. Au bout d'un moment, ça. Et puis, il y a un Américain au milieu. Qui s'appelle l'idiot, parce que lui se retrouve là, qu'est-ce qui se passe ? Lui en plus, il arrive d'Afghanistan, on sait pas trop d'où il arrive, mais on sait qu'il arrive d'une zone de guerre où il s'est battu contre du barbu, quoi. Alors là, il arrive et dit, qu'est-ce qui se passe ? Il comprend pas. Voilà. Il sait pas s'il s'est battu contre du taliban ou du daéchien, mais en fait, il s'est battu contre du. Voilà, on sait pas. Et là, il arrive là et il voit les maghrébins qui sont assiégés quasiment par les. Voilà, c'était. C'est hyper violent, mais il y a de l'humour, je précise. Mmh. C'est violent, mais il y a de l'humour.
Ça parle aussi du coup de la connerie humaine, quoi.
Ah ben, c'est toujours, de toute façon, en fait, là, j'avais fait une trilogie de bouquins qui s'appelait Histoires idiotes, L'Idiot Américain, et là, en ce moment, je suis sur L'Idiot du Village, donc c'est la trilogie idiote. C'est qui en fait idiot, c'est pas un mot très méchant parce que quoi, idios, quoi, c'est quoi en grec? C'est ça veut dire singulier, ça veut dire voilà qu'on a tous nos petites bizarreries en fait. On est tous parti. Ça veut dire voilà, c'est quelqu'un de oh, il est particulier, lui, voilà, c'est ça idiot au départ. Oui. Il est spécial, voilà. C'est pas plus que ça en fait au départ. Hein. C'est pas un mot très méchant. Je vais pas dire voilà, j'ai pas fait la trilogie connard. C'est un truc gentil.
Comment tu travailles? Est-ce que tu te mets un cadre? Genre, il y a des auteurs, par exemple, qui vont écrire tous les jours pendant 2 heures au même moment de la journée? Ou alors, est-ce que tu fonctionnes plus à l'instinct, à l'inspiration?
Ah bah c'est marrant, parce qu'Augustin Trapenard m'a posé la même question.
Donc, on n'invente rien.
Et je lui ai dit, ça dépend. Bon, c'est vrai qu'il y a, il y a un côté un peu fonctionnaire, quand même. C'est un truc... l'écriture, c'est un peu 35 heures, quoi. C'est fait 35 heures, ou des fois on dépasse. Hein, parce que, et puis, bon, puis des fois on dépasse par en dessous aussi, mais pardon. C'est, c'est un truc qu'il faut avoir une mentalité un petit peu. Quand même un petit peu fonctionnaire. Il faut s'attabler et dire, bon, bah là aujourd'hui, je passe la journée. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Sinon. Et puis, alors, c'est aussi un conseil que je peux donner à tous les gens qui aiment écrire et qui ont envie un jour d'aboutir un de leurs projets, parce qu'on a tous plein de projets dans les tiroirs. Si un jour vous voulez vraiment aboutir un projet, eh ben vous ne vous demandez pas si vous allez l'écrire sur la Côte d'Azur, dans telle ou telle maison. C'est, si quelqu'un vous prête une maison, c'est très bien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est vrai que ça aide. Mais c'est vrai, c'est super. Hein. Mais de toute façon, si on prête une maison, il y a quand même le voisin qui fait du tracteur. Donc, ça ne change rien. Quoi qu'il se passe, si vous voulez écrire un bouquin, vous foutez les boules de caisse et vous y collez 6 heures par jour et ça avance. Voilà. Et que vous soyez dans un appartement, j'ai écrit dans un studio de 20 mètres carrés à Montpellier ou là dans une jolie maison à 1000 mètres dans les Cévennes, c'est pareil, hein, c'est boules de caisse et face à un mur blanc et ça fonctionne.
Ouais, bon, du coup, toi, ouais. C'est vraiment, tu te mets dans ta bulle, pas de musique, pas de...
Alors, la musique, c'est bien pour le premier jet. Parce que c'est bien, ça porte. Ça mais pousse. Après, par contre, voilà, quand on veut retravailler les phrases et tout, parce que moi, je ne suis vraiment pas un gars du premier jet, je suis un besogneux. Je sais pas. La fulgurance, oui, c'est voilà. C'est sûr que, par exemple, au hasard, un petit système of a down, c'est bien pour lancer la machine. C'est vrai, c'est super. C'est vrai, ça porte. Et puis après, tranquillou, après on relit. Chacun sa technique, mais c'est vrai que la musique, ça porte bien au départ, c'est enthousiasmant.
C'est bien, à la fin de cette émission, tu viens de me donner le dernier morceau, Sugar de System of a Down.
Voilà.
Ça va réveiller un peu tout le monde.
Impeccable.
Est-ce que tu fais un plan?
Je pense qu'il y a des gens qui font des plans. Parlons de technique d'écriture, hein, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des gens qui font des plans, qui ont tout le bouquin dans leur tête avant. Moi, j'ai quand même vaguement l'histoire, mais vraiment très très vaguement. C'est-à-dire que ça part comme ça, et puis je me perds. Et en fait, beaucoup de gens disent ça. Hein, c'est vrai, c'est ça qui est sympa quand on écrit un bouquin, c'est qu'on se perd dans sa propre histoire. Quoi. En fait, les personnages nous baladent. Hein, voilà.
C'est l'avantage de s'envoler aussi avec eux. Quoi.
Oui, voilà. Souvent, les écrivains disent ça, et c'est vrai. Ouais.
Et alors, tu fais de la BD aussi?
Eh bien, quand j'ai eu fini mes bouquins et que j'étais justement dans mon hameau perdu, et que je savais pas où j'allais après, j'ai dit bon, non. C'est marrant, mais maintenant je m'emmerde. Alors, puis c'était la rentrée, là, c'était drôle d'ambiance. On se disait, bon, on va se prendre une deuxième vague ou pas. Après, il y a eu l'attentat de Patty, Pêcheur. Et tout. Je me suis remis à fond dans la BD potache, ce que je n'avais pas fait depuis la fac, depuis 20 ans. Alors, c'est encore plus con que les livres. Là. Là, c'est vraiment bête et méchant.
Puis un peu d'absurde, et un peu, ça fait du bien aussi.
Avec des gros jeux de mots que j'oserais jamais mettre dans un bouquin. Vraiment, ça fait du bien. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai eu pas mal de bons retours sur ces BD, parce qu'après, je les ai envoyés à des collègues. Parce que bon, quand on produit quelque chose, on aime bien le faire connaître, hein, c'est humain. Nous sommes des animaux sociaux, n'est-ce pas? Et bon, là, une fois. Et puis, j'ai presque plus de bons retours en peu de temps, sans vraiment chercher avec ça qu'avec les bouquins. C'est ingrat, la vie.
Hein. Ouais, j'avoue. change. Tu fais l'inverse.
Là, en ce moment, je suis à fond sur la BD. Là, j'ai terminé un premier tome. Mine de rien, en 4 mois, là, j'ai pondu 40 planches. Et là, j'ai un deuxième tome dans la tête. C'est parti.
Et auditeurs, auditrices, je vous mettrai évidemment les liens où vous pouvez retrouver tout ça. Alors toi qui es plutôt engagé, c'est quoi ta vision sur la situation actuelle?
Oula, à quel propos?
Oh, à tout ce dont tu as envie de parler.
Je vous enjoindrai vraiment à écouter l'émission de Laure Adler, qui pour une fois avait invité quelqu'un d'intéressant. C'était... Non, je suis vache. C'était lundi soir. Lundi soir, c'était le 14, le 14 décembre.
C'est sur Inter, hein, Laure Adler.
Ouais, dans l'heure bleue. Elle a invité Barbara Stiegler. Et honnêtement, j'aurais rien de plus à dire que ce que dit cette femme sur le néolibéralisme. Elle a suivi de très très près le mouvement des Gilets jaunes et elle l'a suivi de façon très intelligente et très subtile, sans avoir un regard du tout angélique, non, mais en voyant toutes les bonnes choses qu'il y avait aussi, et surtout en voyant, elle parle beaucoup du préfet allemand, qu'elle connaît très bien en plus, parce qu'elle vient de Bordeaux, d'ailleurs elle n'a pas de haine pour le personnage, mais bon, enfin voilà, idéologiquement c'est une merde, enfin il est très malsain quoi, hein. Voilà c'est ce qu'elle dit, hein. elle en parle pas aussi méchamment que moi, hein. Enfin ouais, elle dit ça, oui bah, idéologiquement c'est un tordu quoi, c'est comme Darmanin, ce sont des gens malsains, hein. C'est tout ce qu'on peut dire, hein. on a intérêt à les regarder de près parce que ce sont des gens qui sont démocratiquement très malsains. Mmh. Et alors là je pourrais vous amener alors là sur samedi 12, sur France Culture, il y avait Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur, à l'époque, dans les années Rocard, je crois, les bonnes années. Et il disait tout ce qui n'allait pas dans cette technique de maintien de l'ordre hyper violente, hein. C'est ce qu'il faut appeler. Enfin, voilà. Et que, justement, il ramenait à Clémenceau, ou l'époque où ils ont arrêté de tirer sur la foule, et qu'il y avait les gens, ils avaient fait une chanson sur. Bon, Clémenceau qui n'était pas un tendre, hein. Qu'ils avaient fait une chanson sur Clémenceau pour le remercier de ne pas leur tirer dessus. Non, mais en gros, hein, une chanson sur les militaires qui ne leur tiraient pas dessus. C'est « Salut à toi, c'est le militaire qui ne me tire pas dessus. » C'était à l'époque, parce que Clémenceau a dit on arrête de tirer sur les manifs. Donc ça veut dire que là, on a des gars qui... Clémenceau, qu'on appelle le briseur de grève, hein, donc, qui n'était pas un tendre, hein, mais on a des gars qui sont moins civilisés, bien moins civilisés que Clémenceau, qui d'ailleurs était très anti-libéral, qui disait « Votre libéralisme, c'est la loi du plus fort. Bon, » Voilà.
Et c'est Coluche qui disait qu'il faudrait arrêter d'avoir des forces de l'ordre et retrouver des gardiens de la paix.
Voilà,
exactement. Dans la sémantique, on y est. Quoi.
Voilà, ce qui a été fait dans une autre parenthèse dorée, hein, entre 1997 et 2002, quand il y a eu la police de proximité, que Sarkozy, entre autres conneries, s'est empressé de dissoudre. Mais voilà, ouais, pareil, il y a eu quelques parenthèses enchantées, hein, c'est vrai. Il y a eu le gouvernement Rocard, il y a eu le gouvernement Jospin, il s'est passé de belles choses aussi dans les années. Heureusement, hein. Et puis là, c'est vrai, des fois on se dit « Ah ouais, mais les politiques sont tous pourris, c'est ce qu'on veut nous faire croire ». On s'aperçoit quand même que quand il y a eu des parenthèses, genre 80, 83, avant que Mitterrand se convertisse au thatchérisme, 88, 91, 87, il y a eu des petites parenthèses enchantées, ouais. Et c'est quand même pour ça qu'on n'est pas tout à fait en Angleterre, quoi. C'est pour aux États-Unis. Non, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire ah, les politiques c'est tous pourris. Non, quand même, c'est pas vrai. Il y a quand même des gars qui essaient de faire. Même la mère Aubry, elle a essayé de faire des trucs sympas et tout. Voilà.
J'ai reçu la semaine dernière, quand je dis on a reçu la semaine dernière Val, qui est dessinateur, auteur de BD, qui disait que la situation actuelle allait laisser des traces et qu'on ne retrouverait pas vraiment toute notre liberté à la fin de toute cette période.
Le phénomène de cliquer, mon cher Ben. D'ailleurs, on clique, on tourne, clique, ça tourne, ça ne revient pas en arrière. Ouais, c'est ça. Il y a des crans, comme on dit.
T'arrives à trouver un peu d'optimisme dans cette situation?
Absolument pas, non. Moi, il y a longtemps. Oh là là. De toute façon, depuis les années 90, que j'ai commencé à lire des trucs d'écologie, j'étais effondriste bien avant Pablo Servigne. Et puis, maintenant je me dis, oh ben il se passe de belles choses. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui réfléchissent. Mais globalement, on est pris dans une énorme merde qui nous dépasse. Voilà. Alors, impossible d'être pessimiste, impossible d'être optimiste.
Ouais, tu parlais justement d'écologie quand tu vois que le président n'écoute même pas le collectif pour le climat qui a été créé justement pour proposer.
Ah ouais, bah c'était de la com. De toute façon, Emmanuel Macron, il fait que de la com. Hein. C'est un garçon qui vraiment, il a été biberonné à ça. C'est un gars, c'est un financier, un communicant. Bon, voilà, faut rien attendre de lui. Je veux dire, faut pas le détester non plus. Faut rien attendre de lui, quoi. Ce sont des gens, faut passer à côté. On voit bien que quand il y a eu des alternatives comme Notre-Dame-des-Landes, ils ont été très violents avec eux. Faut voir, c'était bien avant les Gilets jaunes, ce qu'ils leur ont mis sur la gueule, physiquement, quoi. Ils leur ont tapé dessus. Bah, ce sont des gens pour qui la marge est l'ennemi et qui sont d'une idéologie tout simplement qui ne se cache pas, que Serge Halimi avait très très bien décrite quand il avait écrit Le Grand Bond en arrière. Globalement, on reviendrait à une bourgeoisie capitaliste du 19e siècle. avec voilà, avec par-dessus un petit côté rock'n'roll pour faire Jones avec la fête de la musique. Mais c'est oui, voilà, avec un petit peu de défense des minorités pour dire quand même on est gentil, quand même, voilà, pour dire on est quand même, ce qui est une belle hypocrisie, hein,
bonne conscience.
Ouais, voilà, c'est ce que Christopher Lash appelle la révolte des élites. On est super capitaliste, on opprime tout le monde. On opprime les pauvres, et souvent les pauvres, ils sont basanés, mais on les opprime pas parce qu'ils sont basanés, on les opprime parce qu'ils sont pauvres. Mais on dit, c'est pas bien qu'il y ait des gens racistes, mais on vous opprime, mais pas parce que vous êtes basanés. Non, mais c'est tordu, hein. C'est tordu, c'est hypocrite.
Si t'avais un livre à... Vas-y.
Non, je t'en prie.
Ah, d'accord. Et si t'avais un livre à conseiller aux auditeurs, aux auditrices en cette période assez étonnante?
Ouh là là, bon, bah déjà pas les miens. je sais. C'est vrai qu'en soi. L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Pour penser complètement autre chose et en même temps comprendre dans quelle merde on est. Parce que c'est très très intéressant comme bouquin. C'est la naissance du capitalisme en Europe, en fait. C'est vachement intéressant. Et avec du capitalisme et du puritanisme aussi, hein. Donc en fait, on voit très bien ce que vont devenir les Pays-Bas, puis les États-Unis et tout ça. Enfin, ça se passe dans les Flandres. Je sais pas si tu connais le bouquin. Ça se passe dans les Flandres. Il y a des restes d'inquisition, de guerre de religion, tout ça. Et puis il y a à côté des gens qui sont pareils dans les marges et qui remettent tout en question. Et puis à côté de ça, il y a les puissants. Et puis voilà. Toujours dans la même merde.
L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, première femme académicienne.
Franchement, c'est pas volé parce que.
Ah ouais, c'est clair.
Oh là, c'est une tronche. Hein. Mais le livre, il est un peu trop intelligent pour moi, mais je me suis accroché. Non, c'est dense. Hein.
Génial.
C'est dense, hein. C'est très dense.
Mathieu, est-ce que t'es prêt pour ta chronique?
Tout à fait.
C'est comme ça, on y va, générique.
C'est comme ça. La chronique qui ne regrette rien, mais se demande quand même comment on en est arrivé là.
L'an dernier, un réinventeur de l'eau tiède nous racontait que si ma marraine était nymphomane sous Prozac et mon filleul PlayStationophile sous shit, c'était à cause d'une glande quelque part entre le cervelet et le lobe fronto-pariétal. À cause d'une couille dans le piano à neurones, quoi. Cette année, on nous explique que tout est la faute du néolithique. Le néolithique, vous savez, le moment où, bêtement, alors qu'on se promenait peinard depuis 2 millions de piges la sagaie à la main, glanant un mammouth par-ci, une fraise des bois par-là, on a soudain décidé de construire une baraque en dur et d'y rentrer tous les soirs avec Bobonne, les gosses et la belle-mère. Drôle d'idée en vérité. Idée récente d'ailleurs, parce que c'est en gros 10 000 ans avant Jésus-Christ, à la louche. Hein. Alors, 10 000 ans casaniers sur 2 millions d'années nomades de la ligne humaine, ça pèse pas lourd. Hein. De là à penser que ça marque le début de la fin de la dite ligne humaine, et il n'y a qu'un pas d'hominine que nombre de bipèdes plus ou moins informés franchissent allègrement. D'autant qu'il faut l'avouer, le néolithique amena son cortège de calamités. Le cadastre, la chamaillerie collective, la domestication des chevaux, des aurochs, des mouflons, des galinettes, qui pour se venger nous ont respectivement refilé le tétanos, la tuberculose, l'anthrax et l'influenza. Sans compter qu'on s'est mis à pulluler comme des romains et à travailler comme des rats, ou l'inverse. Et qu'on a inventé l'économie de marché, dont l'aboutissement serait le capitalisme occidental, puis carrément le turbo-capitalisme global qui... Même VGE l'a compris, un peu tard il est vrai, a des conséquences relativement pénibles. Dialogue intérieur, je ne dois pas rire des morts. Mais si, je peux rire de tout, puisque je suis Charlie, évidemment je suis Charlie, j'ai même le pins, touche pas à Philippe Val. Revenons à nos mouflons domestiques. Néolithique, agriculture, sédentarisation, grosse catastrophe, tout ça. Eh bien, tout ça, c'est du flan, parce que regardez, feuilletez par exemple Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes de Stéphane Rostin, ou Histoire de l'Afrique de François-Xavier Fauvel, et vous verrez que certains peuples ont su durablement se sédentariser sans massacrer leur milieu, voire en l'enrichissant. Donc la néolithisation, donc l'invention de l'agriculture, n'est pas nécessairement une catastrophe. Oui, mais alors pourquoi chez certains peuples ça s'est passé de façon, disons, moins écolo? Eh bien, hypothèse ébouriffante, parce que certains peuples ont eu une vraiment mauvaise idée, la hiérarchie. Et c'est bien plus vieux que le néolithique, l'invention de la hiérarchie, même si ça s'est pas fait partout. Les plus vieilles sépultures fastueuses qui puent la mégalomanie hiérarchophile datent de 20 voire 30 000 ans, un temps où tout le monde était encore chasseur-cueilleur. Donc ça n'a rien à voir. Mais c'est bien connu, il y a le bon chasseur-cueilleur et le mauvais chasseur-cueilleur. Alors le mauvais chasseur-cueilleur, il a un chef, ou pire, c'est un chef. Alors celui-là, après, quand il devient effectivement agriculteur sédentaire, là, ça peut faire mal. D'où la pétaudière planétaire où nous nous débattons présentement. Si cette hypothèse ne vous convainc pas, c'est que peut-être, sans même le savoir, c'est grave, vous êtes de droite, ce qui est un péché. Repentez-vous vite à avant l'anniversaire de Jésus qui, il est toujours bon de le rappeler, était de gauche. D'ailleurs, VGE lui disait souvent dans sa jeunesse « Vous n'avez pas le monocole du cœur, monsieur de Nazareth ?» Je suis super bon en imitation.
C'est incroyable.
Bon, là, c'est de l'acharnement sur ce pauvre VGE. Qu'il repose en paix, n'est-ce pas,
c'est ce qu'on dit.
Dieu et son âme, n'est-ce pas, voilà, joyeux Noël à tous ceux qui aiment ça. Voilà.
Merci beaucoup Mathieu. Merci. Tes livres sont disponibles sur Bookelis, je mets les liens dans un instant.
Et bientôt il y aura la BD.
Site. Et bientôt il y aura
la BD. Ah ouais, je suis en train de finir la maquette là.
Dès qu'elle y est, tu nous l'envoies et on la met en lien sur notre site.
Ça s'appelle Green Titan. C'est une espèce de Hulk écolo super vénère. Franchement, ça dépote. C'est peut-être ce que j'ai fait de moins pire.
Bonne continuation à toi.
Mais merci.
Et à bientôt, c'est comme ça. Moi, ça me manque sur Barthes. Donc, franchement, si tu peux revenir de temps en temps.
De temps en temps, ce sera avec plaisir. Je sais que j'arrive pas à être régulier pour les chroniques parce que je suis à droite à gauche. Quoi. Mais avec plaisir, vraiment.
Merci beaucoup, Corto. C'est la fin de cette
matinale. Merci, Corto.
C'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. On va parler d'un voyage en vélo qui a été fait par des Cévenols. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Et puis, en plus, tu m'as donné le morceau de fin. Donc, c'est tout à fait très bien. Merci à toutes et tous de nous suivre. À lundi. Profitez bien de votre journée. On se quitte avec Sugar de System of a Down. Ciao.
Salut.
Go and I'll